Salut les sportifs, je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast et dans cet épisode, j'ai en face de moi, enfin virtuellement en face de moi, dans ma fenêtre Skype, deux personnes. Un que vous connaissez déjà très très bien puisqu'il ne s'agit que de mon compère de podcast, co-animateur de podcast, c'est Hermano. Salut Hermano.
Salut Greg et salut cher invité, salut à toutes et à tous. Et oui, ce n'est que Hermano, mais je suis que très enchanté d'être à vos côtés ce soir pour enregistrer un nouvel épisode avec un sujet qui, à mon sens, va en intéresser beaucoup plus que ce que l'on pourrait croire, et notamment par rapport aux différents retours que nous avons eus de nos auditrices et de nos auditeurs, je pense que ce sujet va beaucoup plaire.
Ouais, alors juste reprendre mon introduction, je voulais pas dire que Hermano, mais n'est autre que Hermano, le co-animateur du podcast, il manquait cette précision-là. Je ne vais pas te réduire à du mobilier de podcast, Hermano. Ce serait bien malheureux de ma part. Tu es précieux dans ce podcast et je tiens à te garder à mes côtés pour l'animer. Au-delà de cette petite erreur de locution, je vais vous présenter notre autre invité. Il se nomme Fred Bousseau. Il est rédacteur web pour des magazines que les personnes qui pratiquent le trail connaissent très très probablement, puisque, entre autres, on retrouve le Trail Magazine et plein d'autres titres de presse. Fred, salut.
Bonsoir à vous deux et enchanté de participer à ce podcast. Merci à vous. Et puis bonsoir à tous les auditeurs. Effectivement, on va essayer de développer, de répondre à vos questions pour débuter en trail.
Voilà, donc c'est la thématique qu'on va aborder ce soir. C'est vrai qu'on a eu pas mal de retours d'auditeurs, de questions, de suggestions. C'est vrai que notre podcast, puisque animé par deux triathlètes, était pas mal articulé autour du triple effort. Et puis quand on parlait de course à pied dans ce podcast, eh bien, en tant que triathlète, on pensait d'abord à de la course à pied sur route, ou en tout cas plutôt de la course à pied entre guillemets rapide, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et puis même si le podcast est animé par deux triathlètes, c'est deux triathlètes qui regardent un petit peu les sentiers de nature avec quelques ambitions pour les années à venir. En tout cas, je crois que c'est le cas pour toi, Hermano.
Oui, tout à fait. Alors justement, je vais te reprendre. Il n'est pas animé par deux triathlètes, ce podcast. Il est animé par un triathlète actif et un ancien triathlète qui a décidé de prendre sa retraite parce qu'il fait trop de bêtises en vélo et ça donne trop de soucis à ses proches et à sa famille. Donc il va falloir que je me trouve de nouveaux défis et le trail va faire partie de ces nouveaux défis.
Voilà. Et comme on l'a abordé déjà lors de l'épisode précédent, hein, c'est vrai que tous les deux, on regarde un petit peu pour les prochaines années ces épreuves et ces parcours de trail avec une certaine envie. Et donc, on est les premiers intéressés par cet épisode. Donc, on a discuté un petit peu avec Hermano de la planification de nos prochains épisodes et on a clairement décidé d'aborder un peu plus en détail cette thématique du trail. Mais pour commencer, on a décidé de vraiment partir du début et puis de parler du trail de la manière dont le débutant en trail va l'aborder. Et on a le plaisir de recevoir Fred pour nous parler de tout ça. Fred, déjà juste avant de partir dans le vif du sujet, explique-nous un petit peu, toi, en tant que trailer, quelle est ton expérience dans le domaine et puis un petit peu quelle est ta pratique ?
Peut-être déjà, explique-nous toi qui tu es avant de nous parler de toi dans le trail. Mais toi déjà, ouais, qui es-tu, Fred ?
Une présentation générale du personnage.
Alors déjà, je vais rebondir sur ce que vous disiez, parce que vous disiez que vous étiez spécialiste du triple effort. Mais je pense que si on pouvait aussi quelque part simplifier le trail, on pourrait dire que par moment, le trail, c'est aussi un triple effort. C'est un effort de savoir courir à plat, de savoir courir en montée et de savoir descendre. Et je pense qu'on y reviendra, mais c'est aussi trois facettes intéressantes de la discipline, parce que quand on cumule les trois, eh ben effectivement, on peut gagner, on peut bien se placer, parce qu'on sait souvent que les courses se gagnent en descente, paradoxalement. Voilà. Pour revenir, eh ben moi, ça fait, je viens du monde du vélo, un monde que vous connaissez aussi. Je me suis mis au trail parce que j'ai toujours couru en montagne et je suis aussi accompagnateur en montagne du côté de la Savoie et de la Haute-Savoie en France. Ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu-là, donc je l'ai vu naître, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir. J'étais, pour ceux qui connaissent, à la première édition de l'UTMB, aux premières éditions des Templiers. Donc voilà, ça fait 18 ans, hein, puisque la 18e édition n'a pas eu lieu cette année, mais j'étais quand même sur Chamonix la semaine dernière. Et puis voilà, j'ai fait des trails à titre perso, j'ai fait l'OCC, j'ai fait la MCC sur Chamonix, j'ai fait la Pyramenta d'été, et j'ai pas fait d'ultra, et tout simplement parce que j'aime bien les efforts plutôt courts, on va dire entre 2 heures et 5-6 heures.
Attends, tu nous dis que t'étais au début de l'UTMB, l'UTMB c'est quand même un ultra, ou t'étais au début de l'UTMB dans sa version pas ultra justement ?
Alors, j'étais au début de l'UTMB en tant que média.
D'accord.
Okay. Pour le magazine. J'ai jamais couru l'UTMB. Je l'ai fait en reconnaissance en tant qu'accompagnateur en montagne en 4 jours. Mais les seules épreuves que j'ai fait sur l'UTMB, c'est l'OCC 53 km et la MCC 40 km. Voilà.
Okay.
Et j'ai jamais dépassé ces distances-là parce que j'aime bien profiter et je prends du plaisir plutôt sur des distances courtes de 20 à 35 km. Voilà.
On a déjà eu un petit débat avec l'autre Greg dans notre podcast pour savoir quelle était la limite de l'ultra en trail. Et déjà, rien que là, il semble ne pas y avoir vraiment d'unanimité sur quelle est la distance d'un trail ultra, à partir de quelle distance on parle d'un trail ultra. Je crois qu'on n'avait pas forcément réussi à se mettre d'accord. Pour toi, c'est quoi ? C'est en nombre d'heures, en kilomètres, en...
J'avais entendu ce débat dans un des podcasts. En gros, la définition, elle est plutôt à partir de 80-100 kilomètres, voilà, sur un ultra. Le skyrunning, souvent, définit un ultra à partir de 80, parce que souvent, les épreuves type skyrunning, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment des épreuves engagées en montagne, avec des forts dénivelés, souvent avec de l'altitude. Et souvent des passages techniques. Donc effectivement, on peut souvent avoir des durées d'effort sur un 80 km très montagneux qui peuvent être souvent supérieures à un 100 ou un 120 km très roulant qui peut être en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis qui sont coutumés des épreuves plutôt rapides et qui se courent vite. Nous, en Europe, on a aussi l'habitude de belles épreuves, notamment du côté de la Suisse, hein, de Zermatt, on pense au Matterhorn notamment, qui peuvent faire 22-23 km, mais se courir en 2h30 ou 3h, quoi, voilà, pour vous donner des notions d'effort. Quoi.
Là, on ne parle plus de courir, on a beaucoup plus d'alternance marche que course, je pense, non ?
C'est beaucoup de la marche, oui, tout à fait, ouais. C'est beaucoup de la marche. Après, ce qu'il faut savoir aussi sur les ultras, c'est même si on voit souvent les premiers courir, les premiers marchent aussi. Hein, sur toutes les grandes courses, les premiers marchent aussi. Bien sûr, après, le milieu du peloton et tout, il ne faut pas qu'ils aient de complexe, les gens. On va en parler aussi dans le côté débuté, mais... On sort du cadre particulier du marathon où on est presque obligé de courir tout le temps parce qu'on est sur une route et que les gens nous regardent. Là, quand on est en pleine nuit au fin fond d'une forêt, si on marche, personne ne nous regarde et c'est pas gênant. Et d'ailleurs, tout le monde va se mettre à marcher. Hein.
Ouais. Sur des distances pareilles, de toute façon, on a mal à imaginer qu'on puisse courir tout du long pendant aussi longtemps. Donc, tu nous parles du marathon, donc tu tends une magnifique perche pour parler de la première chose qui va nous intéresser quand on commence à s'intéresser au trail. On peut être un coureur sur route, je pense que les personnes qui vont s'intéresser au trail comme discipline primaire vont directement bénéficier également des choses dont on va discuter, mais la plupart des gens qui vont se diriger vers le trail, je pense, ont déjà un certain background sur la course sur route, ou en tout cas la course, le sport d'endurance, de course à pied. Maintenant, sans parler du matériel dont on parlera un tout petit peu plus tard dans ce podcast, mais vraiment purement au niveau physiologique et entraînement, si tout d'un coup, maintenant, moi qui m'entraîne encore pour un marathon en cette fin d'année, j'espère qu'il aura lieu à Lausanne, est-ce que y a des changements immenses dans la manière dont je vais devoir aborder mon entraînement et ma vision de mon sport si je décide d'aller faire du trail en montagne ?
Ah bah complètement, ça va changer la préparation, c'est presque comme passer de, vous êtes habitué du vélo de route à la course à pied. Si on fait que du vélo de route pendant un mois et qu'on se met à courir 1h15 sur la route, le lendemain, on n'aura pas du tout les mêmes courbatures que d'avoir fait 130 ou 140 km avec 4000 mètres de dénivelé. Là, on n'en aura presque pas, alors que l'heure 15 de route, elle va rester dans les jambes. Pour le trail, on va être sur les mêmes problématiques physiologiques. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure au début, c'est courir à plat, on va reprendre à peu près les prédispositions qu'il faut pour courir sur un 10 bornes, un semi ou un marathon. Mais dès qu'on va monter, ça va encore à peu près bien se passer. Là, on est plus sur des capacités d'endurance et physiologique. Après, dès qu'on va descendre, on le connaît tous, hein, le problème des courbatures quand on va faire une grosse rando en montagne de 2 ou 3 heures et qu'on descend 1000 mètres, on a les excentriques qui commencent à chauffer. Et puis, forcément, pendant 2-3 jours, on a cassé de la fibre. Il faut le temps qu'elle se reconstitue, à partir de protéines. Et puis, il faut un temps d'adaptation, effectivement. Donc, si tu es prêt pour un marathon, je pense que ça te servira fortement, parce qu'on en parlait un peu, et vous en avez déjà aussi parlé dans vos podcasts, la notion de vitesse est très importante pour le trail. Hein. Alors, pas pour tout le monde, hein, pour un débutant, sa première idée sera peut-être juste de finir. Donc, il aura peut-être des moments où il va courir, des moments où il va marcher, il va se retrouver à discuter. Il y a un côté très convivial dans le trail aussi. On peut se retrouver à 4, 5, 6 à discuter. Mais effectivement, plus on sera prêt sur l'aspect physiologique de pouvoir encaisser une montée et une descente derrière, plus on prendra de plaisir, je pense, au fil de la course, et plus on s'en remettra vite, quoi.
Alors, peut-être juste avant qu'on continue, parce que là, on parle de comment appréhender le trail pour les débutants. Moi, j'ai une question beaucoup plus innocente que ça, qui serait, qu'est-ce qu'on définit comme étant un trail ? Parce qu'on en a parlé un peu en off. Est-ce qu'on va parler de trail en montagne ? Est-ce qu'on va parler de trail plutôt plat ? Est-ce qu'on va parler de trail en campagne, en course nature ? Qu'est-ce qu'un trail ? Et quelles sont les différentes spécificités de chaque type de trail ?
Alors, je vais presque vous renvoyer la balle. Vous qui avez envie de venir découvrir ce sport, vous en avez quelle image justement de l'extérieur ?
Grand silence.
Alors écoute, moi je commence si tu veux. En 2009, j'ai fait les championnats de France longue distance de triathlon à Belfort. Et la partie course à pied, c'était 30 km. Autour du lac du Malsaucy. Alors je ne sais pas si vous connaissez ou même si nos auditeurs connaissent, mais en tout cas c'était une très belle course. La partie vélo était un peu vallonnée, bon, la partie natation évidemment était très plate. Par contre, la partie course à pied, c'était ce que moi je qualifierais comme du trail. On courait pas sur du bitume, on courait sur des chemins avec beaucoup de cailloux, beaucoup de petits cailloux, et quand tu prends tes chaussures super légères, plutôt adaptées au marathon, ça fait mal. Et en plus, c'était très vallonné sur la partie course à pied, donc c'était trois boucles de 10 bornes à faire sur 30 bornes, et c'était très vallonné, très accidenté, et pas du tout asphalté. Ça, pour moi, j'ai envie de te dire que ça ressemble à la définition d'un trail, c'est-à-dire quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, qui n'est pas justement une course sur route ou sur stade classique, entre guillemets, et que l'on trouve ça aussi bien en ville, en campagne ou à l'extrême en montagne, et là on parle vraiment de trail de montagne, voire d'ultra trail quand on est sur des distances un peu plus longues. Greg, ton avis ?
Alors, moi j'ai beaucoup plus terre à terre, ça tombe bien, puisque,
ça tombe bien.
avec ma définition. Pour moi, trail, en anglais, ça veut dire chemin, voire piste, et pour moi, déjà rien que ça donne déjà une certaine image de la discipline. C'est-à-dire que quand on court un marathon, et j'ai couru le marathon de Lausanne, j'ai couru le marathon de Berlin, j'ai couru des courses à pied d'Ironman et tout ça, ça se court sur route, sur du bitume, sur quelque chose qui est lisse, qui déroule. Et pour moi, le trail, c'est antinomique à ça. C'est-à-dire que déjà, on va courir sur un terrain qui est plus proche de la nature, donc sur un chemin, sur du caillou, sur du copeau, donc peu importe déjà le cadre, mais on voit déjà, on visualise déjà le côté nature. Donc c'est un petit peu ce que tu disais aussi, Hermano. Et puis rajouter à ça, pour moi, un trail, c'est pas plat, il y a du dénivelé. Alors peut-être que c'est parce que déformation géographique, moi qui suis situé juste entre les Alpes et le Jura, et puis même là où je cours, hein, sur les hauts de la ville de Lausanne, dans les bois qui sont autour de chez moi, Hermano peut en témoigner parce qu'il est venu courir avec moi, probablement que ce que je cours à l'entraînement, pour mes entraînements sur route, se rapproche plus du trail que le terrain d'entraînement de nombreux trailers. donc voilà, pour moi la définition, enfin peut-être pas la définition, mais en tout cas l'envie du trail que j'ai envie de vivre, c'est vraiment l'immersion en pleine nature, quoi. C'est ça, et puis de la course qui représente un certain challenge en termes de dénivelé, en termes probablement de technique. Et puis comme le disait Fred, moi j'ai eu l'occasion déjà de courir sur des parcours de trail à quelques occasions dernièrement, et ça peut surprendre quand on commence, mais c'est vraiment la descente qui fait très très mal, quoi. Et je comprends tout à fait quand Fred nous dit un trail va se gagner dans une descente.
Alors bon, on va vous donner chacun un point, parce que je pense que vous avez tous les deux les bonnes réponses. Non, moi je définirais complètement ce que vous avez dit, et je pense que votre regard est bon. C'est à partir du moment où on parle de trail, on parle de chemin. Et le chemin, il peut être sablonneux, caillouteux, herbeux, il peut être en forêt, il peut être en bord de mer, il peut être en haute montagne, il peut être très caillouteux. J'étais encore hier dans un type de Belledonne, il y a des cailloux partout, c'est incroyable, c'est comme dans le Mercantour. Donc je pense qu'à partir du moment où on est sur un chemin, on parle de trail, voilà. Qu'on soit en Afrique, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, on a moyen toujours de trouver du trail. Et je pense qu'aujourd'hui, si le trail, il a cette appellation qui est devenue presque une marque et un label marketing, comme tu disais, Greg, je pense qu'au fond, on a tous fait du trail dans notre vie, un moment ou un autre. Parce que même quand on était à l'école, on allait courir sur les pelouses, on allait courir dans les champs derrière chez nous. Voilà. Donc, on a tous plus ou moins fait du trail. Et pour pousser la dérive aujourd'hui, c'est, tu le disais, Hermano, c'est aujourd'hui… Trail, c'est chemin, route, c'est courir. Aujourd'hui, on a réussi à créer le label Urban Trail, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on a poussé la dérive à se dire, tiens, en fait, on est en mode urbain, mais on va faire croire qu'on court un peu différemment. Et du coup, et on est bien dans cette appellation complètement marketée et dont les marques se sont appropriées le naming pour en faire du commerce, hein. Après, bon, ça profite à tout le monde, tant mieux.
Est-ce que ça, pour toi, c'est une dérive de l'esprit originel du trail ?
Je pense que c'est une dérive, ouais. C'est une dérive qui, effectivement, vous l'avez défini tous les deux parfaitement. Le trail, c'est le chemin. Donc, effectivement, on peut transformer le truc en se disant que même en ville, on a besoin de trouver son chemin. Mais ce n'est pas ce chemin-là. C'est plutôt le chemin qui est en dehors des zones goudronnées. Voilà. Alors, il y a des très beaux urban trails, hein, ou des city trails, ou tout ce qu'on veut. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des courses qui, il y a 10 ans, s'appelaient les foulées de quelque chose, ou la ronde de quelque chose, qui est devenu le trail des trois clochers ou le trail de trucs, et qui a multiplié par 3 ou par 4 ses inscrits, tout simplement parce qu'ils ont réussi à associer le mot trail à une notion urbaine. Bon, en attendant, on va revenir à ce qui nous intéresse, ça fait courir les gens.
Oui, ouais, alors ça effectivement, si on regarde de ce côté-là, objectif atteint, j'ai aussi des exemples autour de chez moi d'urban trail qui sont devenus des urban trail depuis quelques années, qui avaient un autre nom avant. Et, alors, on ne va pas se cacher, c'est des endroits qui sont très jolis, hein, ça court dans le Lavaux, ici, au bord du lac Léman, c'est magnifique comme cadre. Mais effectivement, ça colle quand même pas forcément à l'idée que moi j'ai de cette pratique du trail. Mais si ça convient et que ça permet de faire courir des gens, dans ce cas-là, objectif atteint, quoi.
Bon, moi je rajouterais une petite remarque inutile. Si trail c'est chemin et qu'on considère que dès qu'on est sur des chemins c'est du trail, qu'en est-il de ces 10 km, ces semis, ces marathons qui se courent en Afrique? Et notamment, j'ai des copains qui ont couru en Éthiopie, qui ont couru au Niger et qui me disent que là-bas il n'y a pas de route, c'est que du chemin. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme étant des trails super rapides ou pas?
Ouais, je pense qu'on n'est pas loin. Hein. C'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, on a tous couru dans les chemins autour de chez nous. Et effectivement, il y a sans doute 50, 60 ans, les routes n'étaient peut-être pas toutes bien goudronnées en France. Il y avait peut-être des... ou en Suisse, ou au Luxembourg, ou ailleurs. Et il y avait sans doute des courses qui se faisaient plus sur des chemins parfaitement lisses, mais gravillonneux. Et effectivement, ça a été les débuts. Alors peut-être qu'à un moment, on a voulu aussi rendre la discipline plus pure. Et puis du coup, on est vite allé sur la route. Mais moi, je pense que même les origines de l'homme étaient quand même de se déplacer sur des chemins. Donc finalement, ce retour aux sources qu'on sent actuellement à la fois sur la consommation, le côté bio, le côté tout ça, on fait peut-être juste qu'un retour aux sources un peu ancestral, quoi, finalement.
Je pense que ça va bien clôturer le point présentation du trail. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on définit un trail? Maintenant, ce que je vous propose, vu que c'est moi qui avais coupé la conversation sur comment est-ce que on passe soit d'un type de course sur route au trail, ou même que l'on découvre le trail, qu'on reprenne ce sujet-là. Donc, Fred, tu nous disais que peut-être pour commencer, il faut être conscient qu'un trail, c'est pas une course sur route ou c'est pas une course sur bitume. Ça va être tantôt vallonné, tantôt des chemins plus ou moins accidentés, plus ou moins escarpés. Si tu pouvais nous donner déjà quelques premiers conseils, soit pour quelqu'un qui va passer d'une course sur route au monde du trail, soit pour quelqu'un qui va vraiment juste découvrir la course à pied par le trail, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme premier conseil?
Alors moi, je pense qu'il faut vraiment définir les typologies de trails qui peuvent exister. On en parlait tout à l'heure, on peut être à la fois en Bretagne sur des chemins assez accidentés, mine de rien, c'est-à-dire avec des racines, des cailloux, des montées, des descentes. On peut être aussi bien effectivement dans des massifs montagneux très accidentés, ou aussi autour de Paris, hein, pourquoi pas, en France, autour d'une grande ville, en bord de mer, sur des sentiers de montagne aussi qui sont très roulants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on aura à la fois la notion de dénivelé. Souvent, tu en parlais, Greg, tout à l'heure. C'est vrai que souvent, on associe quand même le trail à une notion de dénivelé. Donc, c'est des choses à prendre en compte dans son entraînement. Pour débuter, je pense qu'il faut... Il faut être à sa place, il faut pas être trop ambitieux. Faut se dire que si on est habitué à courir une heure sur route à une vitesse de 8, 9, 10 km/h, si on part sur un trail de 10 km, on va forcément mettre plus de temps. On peut aussi avoir des conditions de terrain qui vont être changeantes, c'est-à-dire que c'est aussi bien adapter ses chaussures. Sur la route, c'est simple, hein. On a une paire de chaussures. En général, aujourd'hui, les chaussures de route ne sont pas équipées de semelles de gomme pour la pluie ou de gomme pour un bitume sec. Donc là-dessus, on n'a pas trop de choix à faire. Par contre, en trail, effectivement, là, on va rentrer un peu dans la saison automnale sur l'Europe. C'est clair qu'effectivement, courir un trail en montagne ou même en plaine, on va peut-être avoir des conditions plutôt humides et boueuses. On ne partira pas du tout avec les mêmes chaussures. Ensuite, effectivement, on peut aussi adapter sa nutrition, parce que courir 10 km, on sait tous que, en gros, allez, ça fait une petite heure, on rentre chez soi, on boit et tout. Là, 10 km, on peut vite partir pour 1h15, 1h20, 1h30. Et puis, il faut prendre un peu à boire des fois, un peu à manger. Je pense qu'il faut y aller progressivement. L'avantage du trail, c'est qu'on a moins la notion de chrono quand même et du regard des autres au bord des routes. Ce qu'on disait tout à l'heure, si on doit marcher au milieu d'une forêt, on le fait au milieu d'un chemin. S'il y a une grosse bosse et que tout le monde est à marcher, on se fait comme les autres, on marche. Et c'est vrai que dans le trail, il y a plus cette notion. Alors, vous l'avez vu aussi en triathlon avec les médailles ou avec les t-shirts finishers, mais c'est vrai qu'il y a plus cette notion d'être finisher que cette notion de temps. C'est-à-dire que sur les grandes courses, qu'elles soient l'UTMB, puisque c'est une des plus connues, ou les Templiers ou d'autres grandes, c'est des courses, notamment l'UTMB n'a jamais eu en 17 éditions, 17 fois le même parcours. Donc on ne peut pas vraiment comparer aujourd'hui le temps référence comme à un Sierzinal. Un Sierzinal, on sait qu'aujourd'hui, le temps référence, il est en dessous de 2h30 chez les hommes. Là, sur une course comme ça, donc c'est vrai qu'on se dit, plus j'ai fini mon 10 km ou mon 15 ou mon 20 km que j'aimais 1h18. Voilà, ça n'a pas grande valeur, quoi, chrono.
Donc, Fred nous a fait un bon débriefing déjà de la manière d'aborder philosophiquement cette discipline et comment, a priori, on va aborder un entraînement ou une compétition de trail. Donc, tu le dis, faire avec le terrain qui nous est proposé sur le lieu de notre entraînement, adapter notre matériel. Et ça, c'est la partie qu'on va aborder juste après cette thématique déjà de la différence au niveau de l'entraînement. Mais avant de parler de matos, tu nous disais avant qu'on reprenne la définition du trail, il y a tout qui va changer au niveau de l'entraînement parce que l'entraînement de marathon va donner, tu l'as dit, de la vitesse et probablement aussi déjà un petit peu d'endurance pour aborder le trail en fait. Mais qu'est-ce que je dois viser spécifiquement pour être plus à l'aise sur mon trail pour pouvoir mieux aborder cette discipline? Moi, je cours sur route. Alors, bon, je ne vais pas te cacher que j'ai déjà couru un petit peu en montagne et que ça m'arrive, même quand je cours dans les forêts qui sont autour de chez moi, de rencontrer des terrains type trail. Mais voilà, tu le disais tout à l'heure, même en Bretagne ou dans des endroits qui sont réputés plats, on va trouver des côtes, on va trouver des endroits qui sont bourrés de cailloux, de racines, etc. Donc je pense qu'il y a des trucs tout bêtes hein, qui viennent comme ça à l'esprit, c'est plus lever les pieds pour pas se prendre les pieds dans les pierres ou dans les racines et se casser la figure. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on va devoir faire attention quand on commence un entraînement pour faire du trail?
Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'idée comme ça. Effectivement, alors je vais le prendre à l'inverse, c'est effectivement lever les pieds, c'est important, parce que surtout en descente, alors il y a toujours cette notion aussi d'économie de course. C'est-à-dire qu'on sait très bien, notamment sur des D-bands, sur des marathons ou vous en triathlon, que plus on a une foulée rasante, plus on a une amplitude qui est celle de sa foulée naturelle et tout, plus on va être dans son rythme et dans une économie de course, donc plus on va économiser d'énergie, donc plus on pourra aller longtemps. Par contre, effectivement, entre elles, plus on est à une foulée rasante, plus on risque de taper dans les pierres. Donc il y a une chose très importante, c'est aussi la notion de regard, en fait. Alors en montée, on a le temps de regarder. En descente, l'anticipation visuelle de sa pose de pied est pas du tout la même qu'une course sur route. Une course sur route, on sait qu'on peut dérouler et on peut avoir le regard porté assez loin. En trail, plus on va aller vite, plus il va falloir porter son regard assez loin pour pouvoir anticiper ses poses de pied, parce que c'est vrai que la moindre erreur, elle est soit par terre, soit effectivement une belle entorse de la cheville ou se prendre un arbre, quoi. Enfin voilà, ça peut aller vite. Donc ça, c'est la partie descente. Sur la partie montée, eh ben, effectivement, quand on vient de la route et qu'on est plutôt habitué à courir sur du plat ou plutôt à encaisser des faux plats montants à 2-3% qui vont plutôt juste ralentir la cadence mais pas changer grand-chose, c'est vrai que si on va faire un trail qui est en milieu, on va dire vallonné, hein, sans être forcément montagneux, mais comme on le disait, où on peut avoir des petites successions de bosses de 80, 100 mètres de dénivelé qui, à la fin, vont à 800 mètres de dénivelé. Et ben, je pense qu'il faut les travailler. Alors, les travailler, c'est simple, hein, c'est aller sur la bosse à côté de chez soi, se faire un petit échauffement de 15 minutes, et puis se faire une séance spécifique où on va faire au début peut-être monter 2 minutes. À allure course, faire une petite minute de récup, alors soit en continuant en marchant dans la montée, reprendre 2 minutes, ou alors il y a d'autres séances où on fait par exemple, on va monter 3 minutes, on redescend à son point de départ en courant, donc là en même temps on travaille l'excentrique, hein, c'est intéressant, poum, arrivé au point de départ, donc on regarde pas trop son temps de descente, il va être en général, si on monte 3 minutes, le temps de descente il va être entre 1:40 et 2 minutes. Et là, on repart et on peut faire une séance de 5 fois 3 minutes comme ça. On fait une petite coupure de 2-3 minutes au milieu et puis on fait une deuxième série. Donc, effectivement, la montée, c'est ce qui peut être le plus contraignant pour un coureur à pied, parce qu'effectivement, il n'est pas habitué quand il vient de la route à travailler cet effort-là. Mais par contre, quand on a pris l'habitude, c'est celui qui, moi, je trouve que c'est un des endroits où on prend le plus de plaisir. Parce que quand on a compris, c'est un peu comme en vélo, qu'en fait, en changeant de braquet, c'est comme si on attaquait un col en montant sur la plaque. Alors effectivement, au début, ça va faire mal aux jambes. Mais si on se met à mouliner, donc pareil, si on transpose le fait de pédaler en souplesse en vélo au fait de courir en souplesse avec des toutes petites foulées rasantes, mais qui parfois font juste 15-20 cm d'amplitude, et ben en fait, on va se rendre compte que finalement, on passe partout, entre les rochers, entre les cailloux, entre les racines. On a réduit sa vitesse, on n'est plus forcément à 12, mais à 7-8, mais que finalement, bah, y a ce plaisir de se dire « Ah bah finalement, j'ai passé cette bosse en courant ». Et ça, vraiment, moi pour l'avoir expérimenté et le faire encore, c'est vraiment des choses qu'on peut travailler facilement. Alors, comme tout entraînement de fractionné ou spécifique, ce n'est pas forcément des choses qui sont très agréables au moment où on le fait. Hein. Faut bien se dire, des fois on se tire sur la couenne et ça fait mal. Mais quand on rentre chez soi, eh ben on est content de l'avoir fait. Et puis, au bout de 2-3 semaines, eh ben on se rend compte que finalement, la bosse où on avait du mal à passer, ou le point qu'on s'était donné en haut, le petit refuge auquel on voulait aller, eh ben 3 semaines après, on y va tranquille, on prend du plaisir, on arrive en haut, on admire le paysage et puis on redescend.
Donc, effectivement, le travail de côte, comme tu le dis, extrêmement bénéfique. Et puis... en fait, un petit peu de la même manière dont on aborderait, un peu de la même manière dont on pourrait conseiller un débutant en course à pied sur route, un des premiers conseils qu'on donne à quelqu'un qui a jamais couru mais qui veut se mettre à la course à pied, c'est de faire du 1 minute, 1 minute, où il court 1 minute, il marche 1 minute, etc. Et ça, pour toi, en trail, dans la montée, par exemple, ça peut être aussi une bonne stratégie pour commencer à faire des pentes, tu disais, qui sont plus importantes que celles qu'on a l'habitude de voir sur de la course sur route de 3 à 4%.
Quelqu'un qui n'a jamais trop fait de montagne, mais qui se dit tout de suite face à une pente, j'ai du mal à courir. Effectivement, s'il veut y aller progressivement, alors je parlais de 3 minutes et de redescendre, ça peut être. Je me force à courir 1 minute, je m'arrête 1 minute, je repars 1 minute. Ça, je le fais 5 fois de suite. Je redescends à mon point de départ et puis je recommence 2e fois. C'est pas un exercice très contraignant. Mais c'est un bon exercice. Alors après, on peut aussi le faire en pyramidal, hein, pour ceux qui connaissent les entraînements sur route, ça peut être exactement pareil. Hein. On peut faire 1 minute de récup, 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes, puis à la limite 2 minutes 30 de récup. Et puis on redescend de l'autre côté, on fait 2 fois comme ça. Mais c'est vrai que si on veut commencer, il vaut mieux y aller progressivement. Et souvent, on voit des gens qui, dès que ça commence à monter, se mettent à marcher et finalement, si on les pousse un petit peu à leur dire bah, « si, allez, essaye d'aller jusqu'à l'arbre là-bas et en courant bah, », si on leur dit vraiment « respire bien, prends le temps d'oxygéner les poumons, le cœur, les muscles et tout, et réduis vraiment ta vitesse », parce que souvent aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent de la course à pied, et là, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir de complexe, qui ont l'impression que réduire leur vitesse de 12 à 8 km/h, voire même de marcher, c'est se mettre en échec. Et je pense que ça, c'est vraiment une idée entre elles qu'il faut se sortir de l'idée. Ouais, moi, j'ai vu des coureurs qui venaient, qui étaient des très, très forts athlètes français, hein, sur marathon, sur 100 bornes, même sur 10, qui se retrouvaient à venir au trail dans des pentes très raides. Et je les ai vus pleurer parce que pour eux, on leur avait appris que quand on était dans l'athlétisme, marcher, c'était un échec. Et en fait, non, pas du tout. En fait, souvent, on voit même des gens qui marchent plus vite que le gars qui veut s'efforcer à courir à une bonne vitesse. Voilà. Donc, effectivement, faut adopter, faut passer un peu de temps sur le terrain, pas avoir peur de se dire, bah tiens, j'essaie de faire. Si j'arrive pas 1 minute, bah, je fais 5 fois 40 secondes. Et puis, en fait, les progrès vont vite venir. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on va vite voir des progrès. Et on va vite prendre du plaisir. Et je pense que c'est ça qui est très important aussi.
Question pratique pour les personnes qui s'intéressent à faire du trail mais qui habitent en ville. Est-ce que ces exercices en montée, on peut les faire par exemple sur une série d'escaliers ou est-ce qu'on trouve du terrain en ville qui nous permet de faire ces entraînements-là la semaine quand on n'a pas forcément le temps de sortir, trouver son coin de nature pour faire ces entraînements ?
Alors, je dirais que les escaliers, il y en a beaucoup qui s'entraînent dans les escaliers, mais je pense que la position des pieds, l'aspect musculaire n'est pas du tout le même. Effectivement, il y a une marche, ça doit faire 15-16 cm, c'est toujours la même fréquence. Alors, c'est sûr, pour travailler musculairement, on sait que c'est très bon, même des athlètes qui font du marathon et tout, font de la renfo ou de la PPG dans des escaliers. Je pense qu'on ne peut pas complètement remplacer un bout de chemin par un escalier. C'est quand même compliqué. Et puis, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, le trail, c'est aussi des cailloux, c'est aussi des imperfections du terrain, c'est aussi des racines. Donc, c'est vrai que si on peut essayer... alors, il y en a qui des fois, n'ont pas forcément un bout de côte chez eux. Bah, il y en a certains qui font un quart d'heure de vélo, posent le vélo, vont faire leur séance dans une bosse et ils rentrent en vélo. C'est aussi un bon moyen d'allier une préparation qui est à la fois spécifique et qui peut mettre un peu de foncier. Si on veut faire une petite course de 2 heures, bah, au lieu d'aller faire 2 heures de course à pied qui vont être plutôt traumatisantes physiologiquement, bah, on se dit, tiens, allez, j'ai une demi-heure de vélo pour y aller, je fais ma petite séance d'une heure, j'ai ma petite demi-heure pour rentrer. Et puis bah, finalement, on s'est fait 2 heures sans trop se tirer dessus, alors que 2 heures de course à pied, ça commence à couiner, quoi, un peu. Ouais.
Moi, sinon, après, j'ai la solution de trouver les descentes de garage des copains. Alors, c'est beaucoup plus court, hein, on n'est pas forcément sur 1 minute, on est sur quelques pas, mais si tu trouves une descente de garage assez longue, peut-être que tu peux travailler un peu là.
Faire des séries en sprint dans des pentes à 12%.
Dans les parkings, dans les rampes d'accès aux parkings souterrains aussi, ça
peut être. C'est ça, ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
Le soir, il y en a bien qui doivent s'entraîner comme ça, je pense. Hein.
on fait avec ce qu'on trouve, avec ce qu'on peut, mais comme tu l'as bien résumé, l'idéal, c'est quand même de trouver un terrain qui se rapproche le plus possible de celui qu'on va retrouver le jour de son grand entraînement ou alors de sa compétition, c'est-à-dire un chemin en nature et puis qui ressemble à ce qu'on va rencontrer le jour J.
Moi, je trouve qu'on a bien parlé un petit peu de cette transition sur comment passer de la route au trail ou même quand on devient trailer. Finalement, ça me rappelle un peu de... Je trouve que c'est beaucoup de bon sens, tout comme on peut le faire en triathlon. Là, tu nous dis travailler un petit peu la course en côte, en descente, faire ça sous forme de fractionné. Alors évidemment, on le rappelle, si on fait ça, c'est pas des séances qu'on va faire tous les jours. On va placer ça une fois dans la semaine et pas une grosse sortie et puis le lendemain un fractionné ou inversement une de ces séances fractionné, puis après on va se faire une sortie de 2 heures. Non, on essaye quand même de faire attention à l'organisme. Comme en triathlon, on va travailler beaucoup aussi les transitions. C'est des choses auxquelles on pense pas forcément. On pense souvent à s'entraîner dans les 3 sports, mais pas forcément à travailler c'est spécifiquement les transitions, les sorties d'eau, les passages vélo à course à pied. Là, tu nous donnes des conseils pour nous entraîner suivant l'environnement. Et justement, pour pouvoir s'entraîner suivant l'environnement, est-ce que tu aurais des conseils, encore une fois, peut-être les premiers conseils qui te viennent en tête, les plus intéressants, les plus importants, par rapport au matériel minimum à emmener avec soi quand on va s'engager sur un trail, quand on va se préparer pour un trail, que l'on parle de trail plutôt nature, donc plutôt plat, jusqu'au trail montagne, où là, ça va être vraiment rechercher du vallonné.
On est sur le grand écart, hein, c'est le...
Ouais, ben justement, ça nous fait 2 réponses à une double question à aborder.
Non, alors, je pense qu'il faut vraiment dissocier les différents types d'épreuves. C'est vrai qu'aujourd'hui, le trail est très à la mode. L'ultra trail est plus qu'à la mode. Hein. Aujourd'hui, effectivement, si on parle aujourd'hui de débuter en trail, c'est parce qu'aussi, il y a plein de gens qui ont dans un petit coin de leur tête ou qui ont les yeux qui brillent quand on leur parle du TMB ou de Diagonale des Fous. C'est des courses qui font 160 km, 100 miles, sur lesquelles on s'engage pour une durée, on va dire, le cœur du peloton, c'est plutôt 36, 38, 40 heures dehors, sur le terrain, donc presque 2 jours.
Sans dormir, souvent.
Sans trop dormir, ouais, ou vraiment en faisant des siestes de maxi 1 heure. Voilà. Et puis, on a aussi les courses bah, toutes simples. Hein, chez notamment, du côté de la Suisse, il y a des courses très connues, des courses des alpages, là, qui font entre 10 et 20 km. où là, ben, on va le dire, hein, les gens, les coureurs partent en mode marathon, c'est-à-dire avec rien. Il y a deux, trois ravitaillements sur le parcours, malgré que ça monte pendant des fois 15 km. Donc, il y a ce paradoxe des suréquipements parfois pour l'ultra. Et aujourd'hui, on est encore sur des courses courtes où on n'a pas forcément besoin de grand-chose. Alors moi, je dirais jusqu'à 15, 20 km, on peut partir presque avec pas grand-chose. Je pense que le choix de sa paire de chaussures est très important. C'est-à-dire selon effectivement le type de terrain rencontré, on ne va pas courir de la même manière sur un trail très caillouteux que sur un trail très roulant avec une priorité de chemin, de pelouse, de racines. Donc je dirais jusqu'à 20 km, on peut presque partir à sec, sans rien, selon son temps de course. Hein. Bien sûr, si on part pour 3 heures, on va peut-être prendre une banane ou une poche ventrale dans laquelle on mettra une gourde. Ça dépend aussi du nombre de ravitaillements qu'il y a sur la course. Et je pense qu'une fois qu'on passe les 2 heures, 2 heures et demie de course, là, il faut quand même commencer à prévoir du matériel. Alors le matériel, ça va être ce qu'on connaît, hein, un sac à dos proche du corps avec souvent une poche à eau ou des petites flasques sur la poitrine. Et puis après, bah, la tenue vestimentaire qu'il faut et qui va être aussi adaptée au type de terrain qu'on va rencontrer, à la météo qu'on va rencontrer, à l'environnement dans lequel on évolue. Hein. Si on évolue effectivement dans le massif du Mont-Blanc autour de 2500-3000 fin octobre, bah, le bon sens va faire que forcément, moi, ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai une petite casquette accompagnateur en montagne, et on sait que les extrémités sont quand même les points qu'il faut réchauffer en premier, donc les mains et la tête. Voilà.
Moi, tu ne pars pas avec un t-shirt manche courte?
Ah, on évite, hein, de ce temps-là, même en ce moment, hein, j'étais hier en montagne, à 2003, face nord, début septembre, et ben, c'était gelé, quoi, voilà. Alors qu'il faisait 15-16 degrés en face sud. Donc c'est vrai qu'on peut être vite surpris par à la fois bon, les changements météo, on les connaît, mais aussi des versants qui peuvent être à l'ombre toute la journée et dans lesquels on prend froid, ou si on est à des vitesses de progression très lentes où on marche, eh ben, on prend vite froid. Donc tout ça, c'est à s'adapter. Alors aujourd'hui, on le sait, il y a des listes de matériel obligatoires qui sont souvent édictées par l'organisateur, qu'on peut retrouver. D'autres organisateurs font aussi appel au bon sens des pratiquants, c'est-à-dire que bon, effectivement, on part sur une course dans le massif central, il y a peut-être moins de risques que proche du massif du Mont-Blanc, avec moins de risques de neige et tout, mais c'est vrai, c'est aussi à chacun de se responsabiliser et de savoir que bah, s'il part pour 4 heures, il va peut-être prendre, et qu'il y a un risque de pluie, il va peut-être prendre une veste un peu plus étanche, il va peut-être prendre un peu plus à manger, un peu plus à boire, et ce n'est pas les 100 grammes de nutrition qui vont le ralentir dans sa progression. Ça, c'est, faut s'enlever ces idées-là aussi. Quand on a faim, on a faim. Ou quand on a soif. Hein, vous le connaissez aussi bien que moi. Et que bah, si on connaît une grosse défaillance, et ben, une grosse hypo, on peut aussi prendre froid et être conduit à l'abandon, quoi.
Peut-être, comme le disait Hermano tout à l'heure, hein, au niveau déjà du bon sens, quand on s'éloigne seul en pleine nature, c'est toujours pas mal d'avoir son téléphone avec soi au cas où on a un pépin ou quelque chose. Je crois que d'ailleurs sur certaines courses, c'est quelque chose qui est requis, et puis on a un numéro de téléphone de l'organisateur au cas où il arrive quelque chose. Donc déjà, ça c'est vraiment du bon sens si jamais tout là, enfin voilà, comme tu le disais, hein, une descente, on prévoit mal sa prochaine foulée, on se fait une entorse de la cheville, on peut plus continuer. Ben, si on est seul, on est très très vite embêté tout seul au milieu de nulle part. Donc voilà.
Et le petit tips de Greg Runner qui nous avait dit si vous partez avec le téléphone, déjà vous le chargez avant, puis éventuellement vous prenez un power bank pour éviter de vous retrouver comme un couillon sans batterie. Le téléphone mais sans batterie, ça sert à rien.
Charger, à la limite éteint dans le sac au cas où, mais voilà, comme ça au moins on est sûr de pouvoir l'utiliser. Après, est-ce qu'il y a du réseau encore à l'endroit où on va se retrouver en rade, ça c'est une autre question, mais déjà au moins l'avoir pris, parce que comme ça on a au moins une chance de pouvoir appeler au secours. Et puis bah, comme tu le disais, par rapport à la météo, je pense que tout le monde qui est allé en montagne sait à quel point la la météo peut vite tourner, un orage peut vite arriver, et la température peut, même si la cellule orageuse n'est pas directement sur nous, avec le jeu des flux d'air, etc., la température peut baisser de 10-15 degrés très très rapidement. Donc, est-ce qu'au fond de ton sac, quand tu pars en rando ou en trail, est-ce qu'il y a une couverture de survie, une veste un petit peu plus chaude, éventuellement d'autres accessoires qui te permettent de faire face à ce genre de situation?
Alors moi, j'ai un truc, c'est que même quand je vais aux champignons, ça va vous faire rire, mais des fois, je pars 2-3 heures aux champignons en pleine forêt, et ben j'ai toujours dans mon sac une petite pochette avec une couverture de survie, un sifflet et une petite bande élasto. Alors, bon, je l'ai toujours. Où que j'aille, moi ça m'a jamais servi, mais ça m'a déjà servi une fois pour quelqu'un d'autre, voilà, sur un chemin qui s'était fait mal, et en attendant les secours, bah, il pleuvait, il faisait pas bien chaud, on était en montagne, et ben, je peux vous dire que la personne était contente que je sorte ma couverture de survie le temps que les secours arrivent, parce que voilà, ils avaient rien. Alors voilà, moi j'ai toujours avec moi, c'est un réflexe, ça pèse 22 grammes, j'ai ça. En fait, j'ai un fond de sac, comme on dit un peu en montagne, où j'ai aussi un couteau, j'ai aussi un ou deux sacs en plastique vide où je peux ramasser des champignons ou des myrtilles. Enfin voilà, j'ai toujours un espèce de petit fond de sac, j'ai aussi une paire de gants, un vieux bonnet et un bout de frontal. Voilà, donc ça c'est ce que je pars, bon, voilà, c'est un peu la déformation de moi aussi, mon activité d'accompagnateur en montagne, mais je pense que ça coûte rien d'avoir ça. Effectivement, comme tu le disais, Greg, quand on part, qu'on sait pas trop, qu'on connaît pas forcément bien son itinéraire, moi je reprendrai aussi les trucs, les principes de base en montagne, c'est-à-dire qu'on essaye de prévenir son entourage de là où on va aller. Voilà, on essaye de prendre un peu à manger. On sait aussi qu'on peut trouver à boire en cours de route. Et puis, on essaie d'avoir un peu reconnu son parcours, ou au moins de savoir où on va aller. Et puis si on n'est pas montagnard, on ne s'aventure pas, si les conditions sont mauvaises, on ne s'aventure pas dans des endroits qui peuvent être vite scabreux. On a vu, moi, j'étais assez attentif en début de saison, là, au moment du Covid, ou avant qu'on soit interdit de circuler. Y a pas mal de gens qui sont allés en montagne en début de saison. Et on sait, en début de saison, il reste des névés, donc des plaques de neige de fonte de fin d'hiver, et puis il y en a plein qui passent dessus en basket et puis ils ripent et ils se tuent, hein. Régulièrement, en début de saison, il y a quelques morts, malheureusement, qui sont souvent un peu maintenant des trailers, qui partent un peu la fleur au fusil, sans trop connaître la montagne, sans trop connaître les dangers de ces pentes raides qui, voilà, on traverse un névé, ça fait 10 mètres, mais si on part et que on voit pas le fond du trou derrière, et ben on peut sauter une barre rocheuse et mourir. Donc je pense que c'est quand même dommage de pas prendre, surtout quand on n'est pas en compétition, quand on part à l'entraînement, et que ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on est là d'abord pour se faire plaisir. On a la chance d'être dans des environnements qui sont magnifiques. Bon, si on peut éviter de solliciter aussi les secours là-dessus, et juste avoir du bon sens, se dire que voilà, on est en montagne, on peut prendre effectivement un bout de polaire, un bout de pantalon étanche, et puis une petite veste, à faire aller 400-500 grammes dans un sac à dos. Bon, on assure sa sécurité, quoi. Le temps d'un mauvais orage, comme tu le disais, ou d'une forte baisse de température, quoi. Voilà.
Mmh. Ouais, du bon sens, et mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc voilà. Moi, j'ai une question très spécifique sur le matériel. Alors, pas forcément du matériel de sécurité, mais du matériel sur le trail. Est-ce que le trail, ça se fait avec des bâtons ou pas?
Ça, c'est un grand débat, je crois.
J'ai cru que tu allais me poser une question sur les montres, Greg. Mais là, j'allais te renvoyer la balle parce que c'est toi quand même le spécialiste là-dessus. Sur les bâtons, écoute, il y a plein d'écoles. Alors, déjà, au Grand Raid de la Réunion, qui est l'un des plus durs au monde, les bâtons sont interdits. Donc, c'est un peu un paradoxe. Moi, je pense que c'est bien de partir avec des bâtons quand on sait s'en servir. Voilà. C'est-à-dire que si on a des bâtons qui font en gros 100-110 grammes l'unité, donc 220 grammes, et qu'on les emmène pour les promener et caresser le sol pendant 100 km, eh ben, il vaut peut-être mieux les laisser à la maison et prendre une veste un peu plus étanche, quoi. Voilà. Parce que souvent, on joue sur le poids, sur des détails, et on prend des bâtons dont on ne sait pas forcément se servir. Alors effectivement, on peut apprendre, hein. On voit que tous les gens qui viennent du ski de fond, du ski alpinisme, qui ont aussi se sont habitués à marcher avec des bâtons, à progresser avec des bâtons, eh ben, en ont une vraie utilité, parce que ça fait travailler le haut du corps et il y a une vraie, un vrai intérêt au niveau de la poussée. On voit les pelotons, des gens, ben, même on entend, hein, sur les cailloux, ben, gling, 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 ça, ben, ils promènent des bâtons et puis bon, ça les rassure. Donc oui, les bâtons peuvent être utiles si on sait s'en servir. Voilà.
Donc toi, tu n'es pas un réfractaire complet au bâton, parce que Hermano disait, oula, question polémique, voilà, il y a les pros, les anti-bâtons. Toi, tu n'es pas forcément anti-bâton. C'est de nouveau du bon sens si tu sais les utiliser et qu'ils te sont utiles.
Ouais. Okay, alors moi, c'est pareil. Je les prends de temps en temps. Quand je vais faire des grosses sorties en montagne pendant plusieurs heures, alors là je parle pas forcément de trail, hein, je parle vraiment des sorties en montagne où je pars 6-7 heures, pour deux raisons. La première, c'est si effectivement je suis fatigué ou à un moment et que j'ai une ascension que j'ai pas prévue, je fais du ski alpin l'hiver, donc je sais m'en servir, donc je peux en avoir besoin, je me dis que ça peut être utile. Et puis bah, toujours aussi un peu en secours, c'est-à-dire que si jamais moi ou si je rencontre quelqu'un qui se fait mal, bah, un bâton ça peut aider à stabiliser pour descendre si on se fait une entorse de la cheville, parce que du coup on prend appui sur le bâton plutôt que sur la cheville. Et puis bah, dans le cas extrême, hein, on sait, mais aussi ça peut stabiliser pour faire un secours sur un genou, quelqu'un qui se ferait très très mal. Eh bien, en fait, on peut aussi se servir du bâton pour faire une attelle, quoi. Voilà. Mmh. Tant que les secours arrivent, ça peut aussi servir à ça. Voilà, c'est des habitudes que j'ai. Je suis pas du tout réfractaire au bâton. Voilà, c'est plus souvent les gens en course. Bah, je pense que beaucoup les utilisent mal et puis souvent ils rendent aussi dangereux parce que vous savez, quand vous courez, vous avez la pointe du bâton qui traîne derrière vous. Et ce qu'il faut beaucoup penser, c'est un petit détail technique, mais c'est souvent quand on descend, c'est à retourner le bâton pour mettre la pointe face à la pente, ce qui évite de blesser le collègue de derrière, quoi. Voilà.
Alors justement, comme c'est un épisode trail, et je pense qu'on en fera d'autres parce qu'on est déjà en train d'exploser les compteurs, mais comme c'est un épisode trail destiné aux débutants, bah, est-ce que tu as quelques conseils pour apprendre rapidement à utiliser ces bâtons, sachant qu'en podcast, en audio, c'est peut-être beaucoup plus difficile qu'en vidéo, mais tu l'as dit, pour ceux qui ont déjà fait du ski de fond, pour ceux qui font déjà du ski alpinisme, est-ce qu'il y a des similitudes dans la technique et puis deux, trois gestes, si tu arrives à les expliquer en audio, pour quelqu'un qui voudrait débuter et se faire plaisir avec des bâtons? Parce qu'encore une fois, le but, c'est de se faire plaisir, c'est pas de se trimballer des bâtons, histoire de se trimballer des bâtons.
Alors, je pense que 80-90% des coureurs vont quasiment pas utiliser des bâtons, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, le trail c'est pas qu'en montagne, et effectivement faire un trail en Bourgogne, dans les Ardennes, même au Pays Basque ou en Bretagne, on va pas forcément avoir besoin de bâtons. Sur une distance de 20 km, on n'aura pas besoin de bâtons, et ça c'est quand même 80-90% des pratiquants sont sur plutôt ces distances là et ce type de terrain. Après, sur les trails montagneux qui se déroulent en gros du 15 juin à fin octobre, oui, on peut progresser avec des bâtons. Donc, bah, il faut passer du temps en montagne. Il faut effectivement bah, sentir que c'est avec les bras qu'on travaille. Hein, il faut pousser sur les bras. Et je pense que quand on débute avec des bâtons, et bah, si on va s'entraîner, alors il existe ce que vous connaissez aussi dans tous les sports, un peu les week-end shocks, hein, où on se dit, tiens, allez, je vais descendre trois jours avec des potes, je ne sais pas, autour de Grenoble, autour de Chambéry, autour d'Annecy, autour de Chamonix. Et puis là, bah, on peut se faire un après-midi avec 1000-1500 mètres de dénivelé où on va pousser sur les bâtons. Normalement, le lendemain, on a mal au bras. Voilà, on a mal au...
Donc, il faut y aller avec un pote qui conduira à notre place.
Voilà, on peut avoir du mal à tourner le volant si on n'a pas une bonne direction assistée le lendemain. Ça peut être ça.
Euh, donc après, celui qui prend les bâtons, c'est celui qui boit parce que c'est pas celui qui conduit, c'est ça.
C'est un peu ça, ouais. Ça va être le nouveau slogan, voilà. Après, sur l'utilisation, bah, soit on peut les utiliser en quinconce, hein, comme un peu comme en marche, hein, donc ou en ski de rando, ou d'autres les utilisent aussi en simultané, c'est-à-dire on plante les deux bâtons devant. Hop, on fait deux pas, on replante les deux bâtons devant. Ça, c'est très utile dans les pentes très raides. Voilà. Où on peut vraiment, en gros, prendre appui comme si on était un peu sur
avec des béquilles.
Avec des piolets, quoi, un peu. Ouais. Voilà. Et effectivement, pour en avoir discuté avec plusieurs coureurs, souvent, certains partent sur des courses sans bâtons et finalement, ils regrettent de ne pas les avoir pris. En fin de course ou en milieu de course parce que ça aide, hein, surtout sur des courses assez longues de 80-100 km quand on passe beaucoup de temps sur le terrain. Moi, sur les courses que j'ai fait en montagne de 30-50 km, j'ai jamais pris de bâton, mais je pense qu'au bout d'un moment, si j'avais fait des courses très longues, je les aurais prises parce que même si je me moquais un petit peu tout à l'heure des gens qui pouvaient partir avec des bâtons et les promener pendant 100 km. Je pense qu'à un moment, ça a aussi une influence psychologique, c'est-à-dire que ça rassure d'avoir le bâton. Quand on est fatigué et tout, bah, c'est un peu, on a deux bras, deux jambes de plus, quoi, quelque part.
Effectivement, ou en tout cas des points d'appui supplémentaires ou si on commence à faiblir un petit peu des jambes. Donc... Avis intéressant sur les bâtons.
Moi, je voulais revenir sur un point tout à l'heure. Je ne sais pas, Greg, si tu l'as noté, quand Fred, je t'ai posé la question du matos minimum. Tu as très brièvement parlé d'alimentation. Et Greg, tu sais, souvent, quand on a nos invités, on parle de gel, on parle de barres, on parle de gourdes, d'iso, etc. Je note, Fred, que tu nous as parlé de prendre une banane, que tu nous as parlé de prendre de l'eau, voire éventuellement des flasques, mais que l'on pourrait recharger sur la route, parce que souvent, en trail et en montagne, eh ben, on arrive à trouver une petite source ou un truc comme ça. Est-ce que c'est ton côté vraiment trailer nature qui ressort, ou est-ce que c'est pour toi vraiment l'esprit trail, c'est la nature, donc on va pas se faire chier avec une barre où on va jeter les papiers un peu partout, c'est vraiment dans l'esprit de rester le plus proche de la nature possible, et une barre, ça se trouve pas dans la nature, quoi.
Non, j'utilise aussi des barres, hein, après sur le côté nutrition, et alors nutrition, on va inclure la boisson avec, hein, c'est liquide et solide. Je pense que ça fait parfaitement partie de l'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner à ça. Y a des gens qui pourront ne pas boire après une heure et demie de course, ils n'arrivent plus rien à avaler. Y en a d'autres, ils peuvent facilement avaler du saucisson, un bout de fromage, un bout de jambon. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça fait aussi, il faut savoir aussi s'entraîner avec ça, c'est-à-dire savoir si on supporte mieux un gel, si on supporte mieux une barre énergétique, si on supporte mieux une boisson sucrée, une boisson salée. Tout ça fait partie de l'entraînement, et effectivement les contraintes physiologiques sur l'organisme, notamment en descente où on a quand même tout le système intestinal et tout qui est soumis à des chocs, peut-être un peu plus que sur la route. Puis sur la route, on sait qu'on part sur un marathon entre, allez, pour les meilleurs 2,15 et pour les moins bons 4,30, mais on sait qu'au bout de 4h30 c'est fini, et que avec le repas du matin, en général, on fait sa course. Sur un trail de 4h30, sur un trail, on va dire la majorité du peloton fait entre 25 et 30 km. Voilà. Et souvent les gens s'engagent plutôt sur des parcours de 50-70 km où ils passent 7-8 heures. Donc là, effectivement, faut savoir ce qu'on est capable de supporter. Alors, il y en a qui fonctionnent, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, avant qu'apparaissent toutes ces barres énergétiques, tous les gels et tout, il y en a qui se faisaient des mix de petits pains au lait, donc ça se mange plutôt très bien, mais soit avec du fromage râpé dedans ou du jambon très fin, ce qui fait qu'ils avaient à la fois le salé, le sucré. Et puis, c'est plutôt agréable à manger. C'est plutôt bon parce qu'on se le fait soi-même et on met ce qu'on veut dedans. Et puis, ça passe plutôt pas mal. Alors, les bananes, effectivement, ça passe très bien. Moi, j'adapte. Hein. Quand je pars en montagne, souvent, bah, je reviens à mes principes de base, mais souvent, je prends un mélange, ce qu'on appelle le mélange un peu du guide. Hein. C'est amandes, noisettes, raisins secs, abricots secs, figues. Voilà. Et ça... Bah, c'est quand même un peu la base. Alors, c'est vrai qu'en course, ça passe pas forcément super bien parce qu'il faut mâcher, c'est un peu long à digérer. Mais à l'entraînement, c'est très bien. Après, si on est sur des efforts avec des vitesses de progression à 5 km/h de moyenne, c'est tout à fait des choses qu'on peut manger. Et je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là de sa préparation et de ses objectifs. Et bien anticiper qu'à un moment, il faut garder aussi le plaisir de la nourriture. Je pense que mentalement, c'est très important de savoir qu'à un moment, on va avoir un truc bon à manger. Voilà.
Ah, ton fameux sandwich qu'on s'appelle au Synovis ou...
Oui, on en avait déjà parlé avec Denis hein, dans l'alimentation sur l'Ironman. On est aussi sur des durées de 10-12 heures. Et effectivement, on se raccroche à des trucs... psychologiquement qu'on sait qu'ils vont arriver, et quand on sait qu'on va déballer notre sandwich custom au milieu de son parcours vélo, c'est vrai que ça peut être un moment psychologiquement qui fait du bien dans ce cas-là. Et je pense qu'en trail c'est pareil, mais je pense que Hermano, pour répondre à ta question, on peut revenir à ce hors-série qu'on avait enregistré avec Denis sur l'Ironman. Je pense que ça s'applique exactement au trail, c'est-à-dire que Denis nous conseillait d'une part de tester à l'entraînement ce qui passe pas, et puis d'autre part, eh bien, d'essayer un maximum de compenser en temps réel dans son effort le nombre de calories qu'on est en train de griller pour pas se mettre en déficit trop important, surtout si on décide de faire de l'ultra-trail, et donc que ça doit durer suffisamment longtemps. Si on recompense pas les calories qu'on dépense, au bout d'un moment, on va avoir un problème. Et ouais. Donc, je pense que là, le bon sens, bah, c'est de s'alimenter et de commencer par le faire à l'entraînement. Et puis, on en avait parlé aussi, hein, de noter. C'est-à-dire, est-ce que si je mange ça sur un trail où il y a énormément de descente et que ça tape beaucoup, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe quand il fait chaud, quand il fait froid? Enfin, voilà, c'est... Tous ces petits détails qui vont nous permettre de faire notre plan nutrition pendant la compétition.
Je parlais tout à l'heure des week-end shocks qui effectivement sont un peu les week-ends à la mode. Hein. Il y a beaucoup de gens qui habitent en ville, en milieu urbain, qui décident à 2-3 potes de descendre un week-end au plus proche des montagnes qu'ils ont. Et je pense qu'il ne faut pas avoir non plus de crainte à aller avec ces gens-là, à leur demander des conseils et à adapter ces séances. Mais c'est vrai qu'une sortie longue de 6-7 heures en mode rando-course en montagne, ça permet vraiment de bien apprivoiser toutes ces conditions-là qui sont à la fois la chaussure, qui sont à la fois le matériel, le sac à dos, hein, un sac à dos qui frotte pas. Bah, comme tu dis aussi, Greg, parce que tu en es un des spécialistes, bah aussi savoir se servir de ses outils de navigation, hein, de sa montre. La montre, pour moi, ça fait aussi partie d'une panoplie importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont très, très performants en termes d'altitude, de vitesse de progression verticale, de dénivelé cumulé, de points hauts, de points bas. Et c'est important des fois de aussi connaître l'altitude à laquelle on est, le dénivelé qui nous reste, sa vitesse de progression verticale. Et puis pareil, de tester son matériel, de savoir aussi à quel moment s'habiller et se déshabiller, savoir à quel moment manger et à quel moment boire. Hein, comme on dit toujours, hein, faut boire avant d'avoir soif et manger avant d'avoir faim. Et ben, je dirais pour l'alimentation et pour l'équipement, c'est pareil, il faut savoir s'habiller avant d'avoir froid. Et je me souviens d'une athlète sur des championnats du monde à qui j'avais dit pense à te couvrir, parce qu'elle était à fond dans sa course. Et on en a reparlé il y a pas longtemps. Elle était en équipe de France et elle m'avait dit heureusement ce jour-là que tu m'avais dit de m'habiller, parce qu'elle me dit je l'aurais jamais fait et elle aurait jamais été. Et c'est vrai qu'on essaye toujours de repousser cette échéance un peu, de se dire bon, pareil hein, pour son sac à dos. Tiens, on a un petit sac à dos qui frotte un peu, on se dit bon allez, prochain ravitaillement où je m'arrête, je vais le régler. Et puis en fait, le prochain ravitaillement on s'arrête, et ben le sac à dos il a hérité tout le bas du dos, et puis 30 km plus loin on est gêné. Et puis voilà, c'est toutes ces petites choses là qu'il faut régler Surtout quand on part pour progressivement essayer d'aller vers des longues distances. Et j'en reviens, et je pense que vous serez d'accord, tout ça contribue au plaisir de la course. C'est-à-dire que, effectivement, on peut se soustraire de toutes ces contraintes, et ben, finalement, on n'aura que du plaisir à l'arrivée, quoi.
Ouais. Alors, effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à discuter sur le matériel et que c'est très, très intéressant. Maintenant, comme on l'a dit en introduction de cet épisode, on va peut-être s'arrêter là dans la partie matérielle. Mais il y a évidemment la thématique des chaussures. Tu nous as parlé du choix des chaussures qui était extrêmement important en fonction des conditions. Il y a le choix du sac, il y a le choix de tout un tas de matériel. On va parler aussi, évidemment, de navigation, d'altitude, de montre, de fonctionnalités dont on a besoin, de savoir lire les tendances barométriques, enfin bref, tout ça. Je pense que ça donnera lieu à d'autres épisodes et évidemment, Fred, tu seras invité à ces épisodes pour en discuter plus en avant si ça t'intéresse et puis éventuellement d'autres invités. On va aborder cette thématique de trail un peu plus en profondeur à l'avenir. Maintenant, pour finir sur la partie débutant en trail et puis quelques bons plans pour vraiment commencer. Il y a une dernière thématique que je voulais aborder encore de cet épisode, c'est est-ce que tu as des conseils, des petites astuces pour choisir ses premiers itinéraires de trail, sortir de la route, comment est-ce que je fais pour connaître des sentiers, est-ce qu'il y a des répertoires de sentiers, de trail, est-ce qu'il y a des communautés qui échangent sur des parcours en fonction des régions, est-ce que il y a des parcours de trail homologués par des fédérations, en l'occurrence en France, éventuellement en Suisse, est-ce qu'on trouve ce genre de choses pour des terrains qui sont déjà guillemets un petit peu balisé, hein, où on se lance pas complètement à l'inconnu, mais où on peut découvrir cette discipline sur des parcours qui sont intéressants et praticables.
Alors ouais, complètement. Il y a, alors comme tu l'as dit, tu as évoqué plusieurs mots. Il y a des parcours, il y a des communautés. Alors les communautés, ben, on les connaît tous, hein. C'est les communautés Instagram, c'est les communautés Facebook, c'est les réseaux sociaux en général, c'est les groupes. Il existe plein de groupes. Je pense que quand on est un peu actif sur les réseaux sociaux, il suffit de lancer une annonce en disant « Je vais le week-end prochain dans les Cévennes, j'aimerais bien trouver un parcours à tel départ, faire 15 km et tout. » Et là, on va avoir 10-15 réponses de personnes qui vont proposer des sorties. Voir justement, après, tu connais aussi ça, pouvoir télécharger les traces à partir de fichiers GPX, qui sont aussi très utiles. Il existe des applications aussi pour tracer ces parcours, donc ça, c'est très bien. Et puis, effectivement, en parallèle de ça, tu as aussi des... Alors, je ne sais pas si c'est développé en Suisse, mais en France, c'est assez développé. Je sais aussi, du côté de la Belgique, il y en a quelques-uns. Des stations de trail ou des espaces trail ou des villages trail. Donc, c'est des territoires qui se développent, qui ont compris aussi que il y avait un vrai intérêt économique, social, et aussi, alors nous, c'est un truc qui nous préoccupe et dont on va bientôt parler dans le magazine, mais c'est vrai que dans cette transition un peu énergétique, économique, de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, il y a beaucoup de stations de ski qui sont en train d'anticiper ce changement, qui savent que dans 10 ans, ils n'auront peut-être plus de neige, et qui petit à petit mettent en place des activités outdoor, hein, d'une façon générale, que ce soit du VTT, de la via ferrata, de l'escalade, des balades à cheval ou du trail, et qui ont développé des parcours, hein, des parcours permanents, donc qui vont de l'initiation 7 km jusqu'au parcours en général de 25-30 km, qui sont plutôt bien balisés, où on trouve les cartes en office de tourisme ou sur les sites web, où on peut tracer les fichiers, on peut télécharger les fichiers GPX. Ça, c'est des bons moyens aussi de partir à plusieurs un week-end. Et puis, chacun y trouve son compte sur des boucles qui, effectivement, c'est un peu le principe des pistes de ski. Hein. C'est vert facile, bleu moyen, rouge un peu plus difficile et noir, le parcours un peu engagé, technique, long, qui va nécessiter un peu d'expérience. Quoi. Voilà. Mais oui, tout ça existe. Et après, pour ceux qui veulent partir tout seuls, c'est ce qu'on disait, c'est quand même bien. Aujourd'hui, il y a des bonnes applications pour tracer ces parcours qui sont plutôt fiables. Hein. Moi, je m'en sers régulièrement en vélo ou même pour regarder justement la fiabilité. Et c'est vrai que quand on trace un parcours de 15 km avec 800 mètres de dénivelé, bah, quand on le finit, on se rend compte que la trace était plutôt juste. Et puis ça permet de s'entraîner et de pas se tromper et de pas partir complètement dans l'inconnu sur des sorties en disant je pars 2 heures, puis finalement on se retrouve en terre inconnue et on part pour 4 ou 5 heures, quoi.
Ouais, 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 je suis spécialiste de ça. Hermano, lui, il va se mettre très très rapidement à l'ultra trail, un petit peu contre son gré peut-être.
Bon, en même temps, je risque pas trop de me perdre dans les montagnes à Luxembourg. Nous, c'est beaucoup de relances, beaucoup de petits coups de cul, comme on dit, mais j'ai pas vraiment de montagne. Donc, si je me paume, c'est vraiment que je le fais exprès.
Alors, effectivement, hein, pour répondre pour la Suisse, à Fred, bah, ici aussi, hein, les stations de montagne qui sont les stations de ski historiques en hiver, et ben, développent de plus en plus des activités d'été, que ce soit sur le VTT. Le VTT électrique, en ce moment, est très porteur, et le trail, évidemment, aussi, et donc propose des itinéraires de trail. Le trail électrique, pas encore. Peut-être bientôt avec ton exosquelette connecté, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais effectivement, tu peux prendre un télécabine, un télésiège ou voir un téléphérique, te retrouver dans la station, puis là, de pouvoir faire des parcours en montagne, des parcours qui sont balisés, et puis se mettre un petit peu au trail ou alors d'autres activités. Donc, c'est vraiment... assez idéal pour débuter. Mais comme tu l'as dit, hein, il suffit, si on ne connaît pas du tout les parcours de trail, même autour de chez soi, ben, aller sonder un petit peu les communautés sur les réseaux sociaux, et puis on aura assez vite des réponses, des propositions de parcours, et pourquoi même pas des propositions de partenaires pour découvrir cette activité, et puis découvrir certains parcours. Donc voilà, on aime les réseaux sociaux pour ça aussi, pour connecter les différents sportifs.
Ouais, c'est bien ça, on est complètement là-dedans. Après, hein, moi je pense qu'on vit une époque incroyable là-dessus, donc faut surfer sur cette vague. Mais je mettrais quand même un petit bémol, faut pas se voir plus fort que ce qu'on est. C'est-à-dire qu'effectivement, si on part en milieu montagneux et qu'on n'est pas un grand connaisseur du monde de la montagne, faut savoir qu'on, si on part en bord de mer ou en forêt, dans les Landes ou j'en sais rien, autour de Paris ou dans le Beaujolais, si on prend un orage et qu'il fait froid et qu'on se perd parce qu'il y a un peu de brouillard, qu'on se trompe de chemin, on ne va pas risquer grand-chose dans la vie. Effectivement, on se retrouve pris dans un orage, dans le brouillard à 2500 mètres et que la nuit arrive et que d'un seul coup il fait 3-4 degrés et qu'on n'arrive plus à redescendre. Faut être clair qu'on se met en danger de mort. Voilà. Une hypothermie, la fatigue, une déshydratation et puis un petit moment de stress et de panique. Et effectivement, ce qu'on disait, si on n'a pas aussi des outils tout simples, hein, de cartographie ou de montres GPS comme tu les connais très bien, qui peuvent avoir des fonctions trackback très intéressantes. Des fois, si effectivement on n'a pas expérimenté ça aussi dans des conditions de un peu d'entraînement ou de jouer un peu avec sa montre, on se dit non, mais de toute façon ça me servira jamais et tout. Bon, finalement, des fois, on est bien content d'avoir cette fonction-là sur sa montre, de savoir s'en servir le jour J, et puis ça peut sauver. Mais je crois surtout, ouais, faut rester à son niveau. Dans la pratique qu'on veut faire et pas être plus ambitieux que ce qu'on peut être le jour J et de son niveau de forme et son niveau de compétence du terrain là où on est au moment donné, quoi.
Ouais, rester humble par rapport à ses capacités et puis découvrir petit à petit cette nouvelle discipline, pas forcément vouloir tout de suite partir pour 3 heures en montagne et puis se retrouver dans un parcours impossible et puis comme tu le dis, rester bloqué encore. Pour revenir sur les mots d'Hermano de tout à l'heure, encore du bon sens, mais voilà, de la précaution, découvrir progressivement sa nouvelle discipline et puis s'épanouir là-dedans plutôt que de morfler la misère sur sa première expérience en trail et puis d'être dégoûté, c'est pas le but non plus. Donc voilà, encore un conseil très très avisé. J'ai vraiment bien envie de développer tous ces différents aspects, hein, au cours de futurs épisodes. Alors évidemment que le podcast ne va pas devenir un podcast exclusivement trail, on va continuer à développer plein d'autres sujets. D'ailleurs, encore des invités triathlètes qui vont nous rejoindre pour des futurs épisodes, mais voilà, on va parler plus de trail, déjà parce que c'est demandé par nos auditeurs et que nos auditeurs, on les écoute et qu'on leur parle de ce dont ils ont aussi envie qu'on leur parle, et puis aussi parce que nous, ça nous intéresse, Hermano, et que, en tout cas, moi déjà pendant cet épisode, moi j'ai appris plein de trucs pour aborder mon futur entraînement de trail plus sereinement et informé. Et... je sais pas ce que t'en penses, Hermano.
Ah, moi aussi, j'ai passé un très bon moment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai hâte que l'on enclenche les autres épisodes, et puis surtout, j'ai hâte de mettre à m'entraîner.
Ouais, c'est ça, de passer dans le vif du sujet.
C'est ça.
Donc Fred, si à l'avenir tu es intéressé à venir développer ces différentes thématiques plus en avant avec nous, tu seras évidemment le bienvenu. Si tu as aimé cette expérience d'être dans cet épisode avec nous. Et puis éventuellement, en attendant ces prochains épisodes, nous on te retrouve notamment sur Trail au pluriel, Trail avec s-endurance.com, et puis sur les réseaux sociaux, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Alors, merci déjà à vous hein, pour cet échange. J'espère que ça plaira, que ça va susciter aussi des questions. Hein. J'imagine que vous recevez des questions, donc on pourra les collecter et y répondre avec plaisir. J'aurai peut-être pas réponse à tout, mais je vous donnerai aussi des contacts que vous pourrez interviewer et inviter, qui seront peut-être plus à même sur des points très précis. Oui, il y a plein de choses à faire. Moi, si vous voulez, j'ai à côté de chez moi un petit trail, je crois, le 10-11 octobre, là, un petit 14 km qui est parfait en initiation, qui doit faire 14 et 400-500 mètres de dénivelé, où justement, il y a tout type de terrain, il y a de la descente, il y a des petites côtes. C'est très joueur, c'est idéal pour s'initier et débuter. Et c'est le 11 octobre à côté de Moutiers, là, à Aigueblanche. Moi j'y serai, je l'ai fait l'an passé, c'est très convivial, très familial, c'est joli, on passe à côté des cascades, voilà, c'est vraiment, pour moi c'est exactement ce que représente l'initiation au trail, c'est-à-dire trouver une vraie transition entre la route et les chemins escarpés. Ben, on trouve un peu ces petits chemins de moyenne montagne ou de basse vallée qui sont joueurs dans lesquels, quand on est un peu entraîné avec ce qu'on disait tout à l'heure, finalement on prend du plaisir le jour de la course. Et puis, comme je disais, moi, c'est des moments où on peut aussi échanger. Et puis, monter une côte quand il y a 10 gars devant qui vous ont doublé à fond avant sur une partie plate parce qu'ils ont des qualités de routier, et puis que nous on arrive avec notre petite foulée et puis qu'on les rattrape les uns après les autres, finalement c'est plutôt agréable, voilà. Et puis ça se fait dans la bonne ambiance,
voilà. Ouais, c'est ça,
toujours dans la bonne ambiance puisque c'est un trail, donc dans la bonne ambiance.
C'est...
Merci beaucoup Fred. Alors tu l'as dit, s'il y a des gens qui ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, hein, podcast.nakan.ch, il y a un bouton nous poser une question, et puis on vous explique toute la procédure. Alors n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp, via Telegram, via mail, via tous nos réseaux sociaux. Et puis il y a aussi une chose que vous pouvez faire, chères auditrices et chers auditeurs, si vous avez apprécié cet épisode, eh bien c'est aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Ça nous aide non seulement à nous faire connaître, et puis ça aide aussi les gens qui ne connaîtraient pas encore Nakan à savoir un petit peu de quoi on va parler. Et par exemple, comme l'a fait Sirba Siltiri, oula, pas facile, qui nous dit « Super podcast, merci, vraiment une très bonne source de motivation et d'information. » Donc si toi aussi, chère auditrice, cher auditeur, tu veux nous faire un petit commentaire, eh bien direction Apple Podcast, et c'est très facile. Tu te connectes avec ton compte Apple, tu laisses une note, si possible 5 étoiles, et un joli commentaire.
Voilà, un commentaire ou une question, hein, comme l'a dit Fred, s'il y a des questions par rapport au trail ou par rapport à d'autres thématiques sur le sport d'endurance, eh bien, inscrivez-les sans hésiter dans les commentaires aussi sur les plateformes de podcast. Nous, on lit ça et puis on essaye de traiter ces informations avec des spécialistes, avec des gens qui savent répondre à ces questions dans des épisodes. Alors, les épisodes ne sont pas forcément diffusés dans les 15 minutes qui suivent la question dans les commentaires. On n'est pas aussi réactif que ça, mais on essaie d'enregistrer dans les thématiques qui sont demandées par nos auditeurs fidèles et intéressés à ces nouveaux champs d'exploration. Et puis, bah, nous, ça nous intéresse aussi parce qu'on est curieux de tout savoir. Donc, voilà. C'est avec plaisir qu'on développe ces thématiques. Donc, un très bel épisode, un long épisode sur cette première partie du trail. On va retrouver cette thématique avec Fred, avec Hermano, avec d'autres invités. Moi, je me réjouis déjà de tout ça. Et on va faire de nos auditeurs et de nous-mêmes, Hermano, grâce à ces épisodes, des grands trailers en devenir.
N'est-ce pas ? De la team Nakan.
C'est ça.
Fred, merci encore. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Et puis, Greg, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.
Oui, c'est ça. Dans 15 jours pour un nouvel épisode où on va parler de plein de sports et de différentes distances sur ces sports, des distances des fois un petit peu surprenantes. Ouais, on découvrira ça dans 2 semaines. Et puis nous, on retrouvera probablement Fred d'ici quelques semaines pour nous parler d'autres thématiques par rapport à du trail. On a ouvert plein de voies aujourd'hui dans cet épisode d'introduction. Et puis on va creuser tout ça maintenant. Merci Fred.
Merci beaucoup.
À très bientôt, messieurs.
Merci à tous et à bientôt.